les jardinières.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jardinières de ce samedi 4 mai. La fraîcheur matinale ne nous atteint pas, Sophie et moi, nous sommes toujours prêtes à entrer dans nos jardins pour appliquer les conseils de nos professionnels. D'ailleurs, bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et notre professionnel pour aujourd'hui, eh bien, c'est Philippe Détrat, horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à toutes.
Alors, comme on dit, à tous, on n'oublie pas. Bah oui, en plus, en mai, on le dit, hein, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et nous, on vous propose de faire ce qu'il nous plaît et surtout à ce qui plaît à votre jardin principalement. Mais qu'est-ce qui lui plaît finalement à ce jardin? Que faire en ce moment? Comment s'occuper de ses plantes d'extérieur ou d'intérieur? Vos questions trouveront réponse aujourd'hui avec Philippe Détrat.
Des questions que vous pouvez lui poser en direct, au téléphone avec le numéro 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez discuter directement avec lui. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire un SMS en inscrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question et vous envoyer le tout au 939. Ou alors, vous pouvez trouver un formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Les premières jardinières du mois de mai, c'est parti.
Les jardinières. Sophie et Stéphanie.
Et la toute première question de la matinée nous a été posée la semaine dernière par Marcel. Elle nous écoute depuis Ascona. Elle nous a expliqué que sa fille a acheté un damascinier il y a 8 ans. Il est devenu très très haut et très fleuri. Alors elle demande s'il faut le tailler. Si oui, comment le tailler? Marcel nous précise que sa fille habite également au Tessin, à une hauteur de 226 mètres. Pour être précis, alors Philippe Détrat, est-ce que vous pouvez aider notre Marcel?
Alors, chouette Ascona, parce que c'est là que je vais aller partir en vacances cet été.
Mais c'est une bonne idée.
Ouais. Mais le damascinier, c'est une plante du Jura. Donc, c'est vraiment une variété de prune qui est une spécialité du Jura. Maintenant, c'est à considérer comme un prunus, comme un prunier. Donc, moi, je n'ai pas de pratique particulière sur le damascinier, mais je pense que ça doit se tailler. C'est un petit peu juste maintenant, hein, c'est un peu tard, à mon avis.
Ah ouais. Mais. Par contre, la question, c'est est-ce que ça pousse autant bien finalement que dans le Jura? Est-ce qu'on a le même genre de damascine?
Ah ben ça, je vous dirai l'automne prochain.
Quand vous aurez goûté, quand vous aurez fait votre petit tour au Tessin, bon ben on compte sur vous. Hein.
Là, j'ai quand même un petit peu des... j'entends, on peut avoir quelques connaissances sur plein de choses, mais transplanter des plantes d'un endroit à l'autre, dans des conditions qui sont complètement différentes, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas vous dire.
Bon, alors, on a reçu un petit SMS, hein, Sophie.
On a reçu un SMS de Chantal qui nous écoute de Bienne, qui nous dit qu'elle a une plante de romarin de 50 cm de haut et de 20 cm de large. Elle voudrait la mettre dans un pot de 80 cm sur 80 sur 100. Est-ce que vous pensez qu'il va encore grandir, Philippe ?
Ça, c'est plus dans mes cordes. Alors, c'est effectivement, je pense que c'est tout à fait possible. Si elle parle d'un pot qui fait environ 80 cm de diamètre ou de côté, elle va mettre la plante dans une condition qui va lui faire penser qu'il est en pleine terre. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau de la taille, probablement qu'il va encore grandir.
Les jardinières.
Et pendant la pause musicale, on vient de recevoir un SMS de Vincent de Courandelin qui a un araucaria, désespoir des singes. Araucaria, voilà.
Désespoir des singes.
Désespoir des singes.
Bon.
Depuis 4 ans, il est bien acclimaté et il aimerait savoir en fait s'il peut lui apporter un engrais. Si oui, lequel et comment? Enfin, du coup, comment s'en occuper, quoi?
Donc, ce qu'il appelle désespoir des singes, c'est un araucaria araucana, qui est une plante relativement délicate au niveau du froid, bon, quoique j'en ai vu jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et il est appelé désespoir des singes parce qu'en fait, c'est un arbre qui a des feuilles épineuses très pointues, très coriaces. Et en fait, on l'appelle comme ça parce qu'on imagine que c'est le seul arbre où les singes ne peuvent pas grimper. Tellement il est pointu. Voilà. Maintenant, au niveau de l'entretien, moi, je le considérerais comme un arbre tout à fait habituel. Je trouve qu'il peut lui donner un engrais tout à fait semblable à n'importe quel arbre d'ornement.
Ok, donc c'est quelque chose qui pousse facilement dans notre région. Parce que bon, finalement, avec le, alors, le nom Désespoir des singes...
Courant de l'Ain.
Courant de l'Ain. Ouais. Bah, c'est à 400 mètres, ah, ouais, 450 mètres. Okay.
Ouais,
donc ça peut pousser, parce qu'on s'imagine que ça pousse peut-être dans des territoires un peu plus exotiques.
Ouais, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de singes à Courant de l'Ain.
Ben non, ben en tout cas pas les animaux. Peut-être
ouais, ils ne seront pas désespérés.
Bon voilà, alors en tout cas Vincent, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rebondir hein, par SMS, toujours 939, hein, le mot jardin, un espace votre question. Il y a également un numéro de téléphone 0900 70 20 20. Et ce SMS, c'est le moyen qu'a utilisé Sandy pour nous demander comment se débarrasser des petits moucherons qui ont envahi ses plans d'intérieur.
Ouais, magnifique.
ces petits ça revient moucherons. Souvent, hein, ces ouais, questions ouais, de petits ouais, moucherons. Ouais, ouais. Hein.
Et puis là, j'ai justement un client chez qui on doit intervenir chaque semaine. Le problème, ça provient des substrats, c'est-à-dire des terres ou des terreaux qui sont achetés parfois dans les grandes surfaces et qui contiennent pas mal de tourbe. C'est probablement des petites sciarides, c'est-à-dire des petits moucherons noirs qui font franchement pas beaucoup de dégâts, hein, c'est pas un gros problème. C'est les larves de ces sciarides, c'est-à-dire les bébés sciarides qui vont peut-être éventuellement poser des problèmes sur des jeunes plantes au moment des boutures ou au moment des semis. Maintenant, sur des plantes adultes, ça fait pas de mal. C'est juste embêtant, ces petites mouches. Voilà. Donc, il suffit simplement d'arroser avec un insecticide et puis de laisser ces plantes un tout petit peu sur le sec de façon à ce que ces larves ne puissent plus se développer.
7h, 8h, les jardinières.
Et Jacqueline de Glovelier nous demande si elle peut couper les grappes de lilas fanées ou si elle doit les laisser sur l'arbre.
C'est à moi de répondre là.
Oui, c'est à notre professionnel. Ouais,
okay. Ouais. Bon, les grappes de lilas fanées, c'est des inflorescences qui ont fleuri et fané. Oui, elle peut les enlever, il n'y a pas de souci. C'est même tout à faire tout de suite. Et puis, elle peut même profiter de rabattre éventuellement, si ce lilas est grand, le rabattre, donc, c'est-à-dire le raccourcir un petit peu, juste après la floraison, puisque c'est la règle qu'il faudrait adopter pour tous les arbustes qui fleurissent. On les coupe après la floraison et non avant.
Après la floraison et non avant.
Et comme ça, ça permet à la plante de refaire des nouvelles pousses qui vont fleurir de manière un petit peu plus compacte l'année prochaine.
Voilà, merci Philippe Détra. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h0970 20 20, 36 centimes la minute. Ou alors par SMS, hein, c'est pour vos questions au 939, le mot jardin, un espace et votre question détaillée. Comme l'a fait Emma de Boudry. Alors elle se demande ce qu'elle doit faire pour ses cyclamènes l'été. Comment est-ce qu'elle doit s'en occuper pour les traiter au mieux?
Cyclamènes. Donc, alors, bon, il y a cyclamènes et cyclamènes. Hein. Il y a des cyclamènes qui sont vivaces.
Là, on a cyclamènes.
Il y a des cyclamènes vivaces qu'on peut trouver dans la nature et qui sont, je crois, protégées. Donc là, il n'y a rien à faire. Mm-hmm. Si c'est un cyclamène qu'elle a acheté en jardinerie qui ne tient pas l'hiver dehors, il n'y a pas grand-chose à faire. Après la floraison, elle va le laisser un tout petit peu sur le sec aussi. Il risque de perdre des feuilles et il va se retaper au moment de l'automne. Quoi. Il va refaire des nouvelles feuilles et des fleurs, mais il n'y a pas grand-chose à faire.
Donc, traitement simple, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'entretien, finalement, le cyclamen.
Non. Il y a une espèce de pseudo-bulbe. C'est une espèce de grosse tige renflée. Et cette espèce de pseudo-bulbe, eh bien, garde comment dire ça, va lui servir de résister pendant une période un petit peu sèche ou une mauvaise période.
Les jardinières.
La fin n'est pas encore arrivée du côté des jardinières. Eh bien non, on repart pour un tour du côté de notre émission hebdomadaire de jardinage. N'oubliez pas que vous avez encore du temps pour nous poser vos questions. Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel, meurt d'envie de partager son savoir avec vous.
Et vos questions, vous pouvez les poser en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour le SMS, il vous suffit d'indiquer le mot « jardin » au début de votre message et de laisser un espace, puis de taper votre question. Et sinon, et vous envoyez le tout au 939, hein, pardon, et vous avez jusqu'à 8 heures pour nous contacter. D'ailleurs, on a une personne qui nous appelle en ce moment.
Ah, voilà, suspense, suspense, bonjour. Qui est avec nous?
Oui, bonjour, mon gardien Marie.
Mais bonjour.
Bonjour.
J'appelle parce que j'ai une petite question, c'est pour mes amaryllis. Je n'ai pas de fleurs, mais par contre, elles me font les feuilles. Est-ce que je dois laisser les feuilles ou est-ce que je dois les couper?
Oh, vous devez les laisser parce que là, en fait, si une plante a des feuilles, c'est qu'elle en a besoin pour se nourrir.
D'accord.
Et puis, pour, alors, il faudrait même lui donner un petit peu d'engrais. Un engrais pour plantes à fleurs de façon à ce que le bulbe puisse mûrir. C'est donc pour ça qu'il faut laisser les feuilles. Ensuite, une fois qu'elles viendront jaunes, voilà, vous pourrez les enlever. Et puis, la plante, elle devrait être au repos un petit peu pendant l'été. Et vous allez la remettre en végétation à partir de l'automne. C'est-à-dire lui redonner un tout petit peu d'eau. Mais en principe, la marilis, on ne lui donne pas d'eau avant que les feuilles apparaissent.
D'accord, oui. Ok, ben ça marche. Ah ben j'ai fait juste, alors c'est tout.
C'est vrai,
bon. Eh ben extra.
Ben merci de votre appel.
Extra, ben merci de vos conseils, hein, c'est super sympa, merci.
Merci Marie,
toute bonne journée.
Bon week-end.
Au revoir.
Et bien si vous voulez faire comme l'auditrice qui nous appelle en ce moment, vous pouvez le faire 0900 70 20 20. Hein, Philippe Détra attend vos questions avec impatience. On a une question de Willy. Willy, il a planté des betteraves, des oignons et du maïs en caissette à l'intérieur. Alors sa question, Philippe, c'est quand peut-il les planter à l'extérieur? Chaque plantation est grande de quelques centimètres, nous dit-il.
Ok, alors donc on ne sait pas du tout où habite Willy.
On ne sait pas du tout où habite Willy, c'est vraiment une question. Voilà, donc ça peut être un peu à toutes les altitudes.
On va faire une espèce de réponse générale.
Voilà, c'est mieux, je pense.
Les plantes qu'il a mis en terre là, se développent de façon peut-être un petit peu trop vite ou trop longue en appartement. Donc c'est peut-être un petit peu tôt aussi pour les mettre dehors. Par exemple, nous, on a semé aussi du maïs dans des plaques de culture. On ne va pas les sortir maintenant, parce que surtout avec ce qu'ils ont annoncé comme temps pour ce week-end. Donc, il vaudrait mieux les mettre dehors en pleine lumière, mais pas tout à fait en plein soleil. Bon, on n'a peut-être pas de risque pour ce week-end non plus. Et puis les rentrer peut-être juste pour la nuit, dans ces, disons, 15 prochains jours. Et ensuite, les habituer progressivement à les mettre en pleine lumière.
Voilà, donc un petit temps d'adaptation.
C'est des petits bébés qu'il faut un petit peu chouchouter au départ, mais il faut aussi les endurcir de façon à ce qu'ils passent l'été correctement dehors.
Merci Philippe, vous êtes avec nous jusqu'à 8 heures. Et la prochaine question, elle nous vient de Manon du Val de Travers, qui nous dit que le terreau de ces plantes d'intérieur est criblé d'une sorte de moisissure blanche. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être et qu'est-ce qu'elle peut y faire?
C'est un petit peu la même. Bon, alors ça, moisissure,
c'est un peu comme les petits
moucherons d'avant, mais même si c'est pas la même famille, probablement un excès d'humidité qui va provoquer l'apparition de quelques moisissures, effectivement. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'elle change de marque de terre, quoi.
Oui, parce qu'effectivement, la moisissure blanche, c'est rarement signe.
Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'on essaye tous de diminuer les traces de tourbe dans les substrats. Et souvent, c'est remplacé par des fragments de bois ou du bois qui est déchiqueté. Et puis, ça ne se passe pas forcément de la même façon. Puis, ce n'est pas super terrible. Quoi.
Et puis, ça moisit plus vite aussi.
Ça moisit plus vite.
Donc vous êtes averti en tout cas. C'était Manon du Val de Travers qui nous posait cette question. Changer de terreau, c'est le plus simple.
Et puis, c'est une histoire de d'humidité aussi. Hein. S'il y a de la moisissure, c'est qu'il y a de l'humidité.
On va enchaîner avec une question anonyme cette fois-ci. C'est la suivante. Mes pensées sont en train de se multiplier dans un de mes pots à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est judicieux d'en déplacer certaines de ces pensées dans d'autres pots ou même de les planter en terre? Qu'est-ce que vous suggérez, Philippe?
Alors, il y a pensée et pensée, là aussi. Il y a les pensées à grandes fleurs qui souvent ne supportent pas les grandes chaleurs de l'été. Donc, à mon avis, elles vont disparaître si c'est des pensées à grandes fleurs. Mmh. Et puis, il y a les pensées, la Viola cornuta, qui est une pensée à petites fleurs et qui est vivace. Donc là aussi, elle n'aime pas trop les grosses chaleurs. Donc normalement, on ne sait pas où est cette personne. Si c'est par exemple à 1000 mètres d'altitude, ses pensées vont se développer sans problème. Maintenant qu'elles se développent, tant mieux. Quoi, j'entends. Je ne vois pas vraiment.
Mais ça peut par exemple, des pensées, ça peut finalement tenir toute l'année.
Oui, suivant où. Suivant où. Ouais. Par exemple, sur le littoral neuchâtelois, les pensées, elles vont pas résister pendant l'été.
Il fait beaucoup trop chaud.
Il fera trop chaud, ouais.
7h, 8h, les jardinières.
Hey, Sophie, pendant la pause musicale, vous avez fait une jolie découverte. Hein, vous allez nous en dire plus.
Une très très belle découverte aujourd'hui, samedi 4 mai. Eh bien, sachez-le, c'est la journée mondiale du jardinage nu. Parce qu'on le sait, hein, le mois de mai, c'est assez propice pour le jardinage. Mais le petit site sur lequel je suis tombée conseille de le faire nu. Voilà.
À poil.
Sur quel site elle va.
Non, on ne sait pas trop sur quel site elle va.
Mais en tout cas, c'est la journée mondiale, hein, je précise.
Je trouve ça extrêmement intéressant, surtout qu'on est dans une émission jardinage justement en ce moment. Philippe, vous jardinez nu des fois ou pas du tout?
Non, pas trop. Non,
vous avez des voisins?
J'ai des voisins et puis il faut quand même un petit peu frisquer en ce moment.
Ouais, exactement.
Oui, j'avoue que la région, c'est pas très propice pour le jardinage.
Surtout que normalement, en mai, on peut faire ce qui nous plaît normalement. En l'occurrence, en ce moment, pas. Si vous voulez jardiner nu, couvrez-vous quand même peut-être les parties principales, je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, vous le savez, aujourd'hui, journée du jardinage nu. On ne sait pas si Daniel qui nous pose une question assez récurrente, jardine nu, mais en tout cas, on va vous poser cette question à vous, Philippe. Il nous demande s'il existe un moyen efficace, simple et surtout naturel pour éliminer les fourmis et les pucerons.
Il y en a plein.
Alors, on vous écoute.
Il y a les produits chimiques, mais moi, je ne vais pas les préconiser. Vu que
Non, surtout pas les produits chimiques.
Voilà, exactement, parce que je travaille plutôt en bio. En bio aussi, on a des insecticides qui sont autorisés, comme le pyrèthre, par exemple. Je ne vais pas citer de marque, mais c'est à base de pyrèthre. Pyrèthre, donc c'est une espèce de chrysanthème qui va tout bousiller au niveau insecte. Mais ça va vraiment tout bousiller au niveau insecte.
Et c'est naturel. Les petits papillons et tout.
Exactement. Donc, il faut faire attention à l'application. C'est pas parce que c'est bio que c'est totalement inoffensif. Simplement, c'est bio. C'est autorisé en bio parce que ça va se dégrader naturellement. Et ensuite, vous avez les différents purins, purins d'ortie et compagnie, qui peuvent être. Alors, ils ont pas le droit d'être utilisés comme insecticides. L'OFAG, donc l'Office fédéral de l'agriculture, va vous interdire de dire que c'est un insecticide, c'est des répulsifs. Mmh. Alors après, on trouve toujours un petit peu des termes pour contourner la loi. Mais purin d'ortie, c'est très bien, ça va bien. Et puis contre les fourmis, par exemple, il y a les marcs de café.
Ah oui, les fameux marcs de café contre les fourmis, effectivement. Donc ça, c'est à simplement disperser dans la terre.
Faire des petites barrières de marcs de café. Et ça empêche, elles passent pas. Ouais, de temps en temps, il y en a une ou deux qui sont un peu plus téméraires. Mais...
il y a toujours la plus téméraire. Donc c'est
mais
tout simple.
Les fourmis ne passent pas ces barrières, donc.
En tout cas, on a déjà quelques petits trucs pour éliminer fourmis et pucerons, moyens naturels. Sophie, on a reçu une autre question d'un fidèle auditeur.
Oui, ce fidèle auditeur, il a un petit plan d'eau dans son jardin, sans aucune plante aquatique ni poisson, juste une pompe pour une petite fontaine en cascade. Depuis l'année passée, son bassin est envahi de vers qui grouillent et qui terminent coincés dans la pompe, donc c'est plutôt embêtant à nettoyer. Hein. Du coup, il se demande si vous auriez une solution pour les empêcher de venir dans le point d'eau.
Alors, je ne vois pas du tout de quoi il parle quand il parle des vers. Alors...
Moi, je n'imagine pas des vers de terre, parce que c'est vrai que c'est quand même... ça ne va pas dans l'eau.
J'ai aussi un bassin où je récupère l'eau d'une source. On a des magnifiques libellules pendant, pendant la belle saison. Et c'est vrai que les larves de libellules, c'est franchement dégueu. C'est un gros truc blanchâtre et puis ça bouffe tout. Hein. C'est particulièrement féroce. Donc, je vois pas ce qu'ils peuvent faire pour enlever. Déjà, il faudrait quand on voit un parasite, un ravageur ou je sais pas quoi, il faut d'abord bien l'identifier avant de savoir ce qu'on peut faire.
Et mettre du sel dans l'eau, c'est une solution ?
Non.
Ouais,
c'est une solution de sel, mais c'est pas terrible parce que ça va saliniser l'eau et puis ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que justement, le sel n'est jamais bon à mettre sur la terre ou sur les plantes parce que ça va sortir l'eau de la plante. Vous le savez certainement que le sel tire l'eau. Si vous faites une tache de vin sur un tapis, par exemple, vous allez mettre du sel dessus, ça va absorber le liquide. Donc, ça se passe exactement de la même chose pour les plantes. Si vous mettez trop de sel autour des plantes, eh bien, vous allez assécher les plantes parce que l'eau de la plante va sortir vers le sel.
Voilà, donc on va éviter cette solution, évidemment. C'est vrai que si on imagine peut-être une fontaine en circuit fermé et que l'eau ne va pas au jardin, mais voilà, là, c'est en l'occurrence... Puis c'est vrai qu'on se souvient tous de l'époque où certains méchants enfants mettaient du sel sur les limaces. C'est méchant, quand même.
Ça, c'est pas
c'est
cool.
Cruel. Hein.
Non, c'est pas cool. Et puis, juste un petit rappel pour les purins d'ortie dont j'ai parlé tout à l'heure.
Mm-hmm.
C'est tellement facile de le faire. C'est 1 kg de plantes, de verdure, que vous faites macérer dans 10 litres d'eau de pluie, si possible. Et puis, pendant quelques jours, vous brassez. Il va se former des bulles. Et puis, quand il n'y a plus de bulles, c'est que le purin, qui va sentir un petit peu la ferme, c'est vrai, le purin sera bon. Et là, vous le filtrez et puis vous l'utilisez. Donc, c'est tellement facile à faire.
Et en plus, c'est facile et c'est naturel. On a reçu, Philippe, encore une... Ah oui, on a encore le temps. Une question de Sabine, qui a des plantations d'ail et des ours depuis des années. Elle nous signale qu'elle habite en pleine campagne. Par contre, elle ne nous signale pas où exactement. Les feuilles et les fleurs sont toujours grignotées, en fait, petit à petit. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'attaque à l'ail des ours ? Parce qu'à cause de ça, ces plantes ne se développent pas. Est-ce qu'il y a un prédateur tout particulier pour l'ail des ours ?
J'en sais rien. C'est peut-être des limaces, tout simplement. Mais je vois pas, je connais pas de parasites particuliers pour l'ail des ours. On en cultive nous aussi un petit peu, mais j'ai pas ce problème. Puis voilà, je peux pas répondre. Je suis désolé.
L'ail des ours, ça se plante facilement dans les jardins. Parce que c'est vrai qu'on en voit dans les forêts, faut que ce soit quand même à l'ombre.
Exactement, ouais. Donc c'est un petit peu une plante de sous-bois, un sous-bois un petit peu humide.
Oui, parce que c'est vrai que là, en tout cas, en ce moment, c'est un peu la période de l'ail des ours.
Alors, il y a des endroits où ça pullule, c'est magnifique. Mm-hmm. Et puis, il y a des endroits où ça ira jamais. Quoi. Donc, parce que c'est peut-être trop sec ou enfin, le sol ne lui convient pas. Donc, on ne peut pas mettre de l'ail des ours n'importe où. Quoi. Mais en tout cas, pas en plein soleil.
Merci Philippe Détra, vous êtes avec nous depuis 7h hein, et puis en ce samedi 4 mai, on va passer à la question générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin en ce moment avec les températures qui sont un coup en hausse, un coup en baisse, qu'est-ce qu'on peut faire à cette période-là de l'année ?
Alors, pas trop s'exciter. C'est vrai qu'il y a
jardiner
un mois...
nu.
Aussi.
Il y a un mois, on aurait déjà pu vendre des plantes en tomates parce qu'il faisait beau et chaud, c'était magnifique. Mais c'est beaucoup trop tôt, donc il ne faut pas s'énerver. Il faut un peu respecter le cycle des plantes. Y a énormément de choses à faire en ce moment. On peut préparer son terrain pour faire des plantations d'ici 10, 15 jours, en fonction de l'altitude où vous habitez. Préparer son plan de culture. Voilà.
C'est vrai que c'est la période parfaite, malgré les températures froides qui arrivent.
C'est normal.
C'est normal, mais est-ce que s'il gèle maintenant, par exemple, bon là on n'attend pas des gelées très fortes, mais là c'est là que ça pourrait mettre en péril toutes les, par exemple, les arbres fruitiers.
Alors, ça peut arriver. Je dirais que chez nous, on risque pas grand-chose. Enfin, dans le Jura, on risque peut-être pas grand-chose. C'est peut-être plutôt en Valais où ils ont les abricotiers en fleurs qui risquent de geler parce qu'ils ont quand même un climat un petit peu différent. Les arbres fruitiers, de toute façon, on ne peut rien faire. Hein. S'ils gèlent, ils gèlent. Et puis voilà, ce sera une année comme ça où il y aura peut-être moins de fruits. Ce qui serait dommage, c'est de sortir les plantes un poil trop tôt et puis qu'elles subissent un petit coup de gel. Ça serait un petit peu dommage, parce qu'on peut intervenir là-dessus. Il faut les sortir au bon moment ou les laisser un petit peu à l'ombre au départ et les habituer progressivement au soleil.
Voilà, comme on en parlait tout à l'heure avec les petites caissettes là de maïs. C'est vrai que quand c'est surtout des jeunes pousses, ben voilà, on y va gentiment.
Voilà, puis il y a des variétés des variétés, par exemple, là, on peut planter quelques laitues, quelques salades, quelques choux, mais pas tout. Il y a des choses qui... On ne va pas planter des brocolis maintenant, par exemple. Les brocolis se plantent un petit peu plus tard. Le chou de Bruxelles aussi. Donc, il y a des variétés qui sont adaptées à certaines périodes de l'année.
Extra, merci beaucoup Philippe Détra. La fin approche, mais la fin de l'émission bien sûr, la matinée elle va se poursuivre avec l'application des conseils de Philippe. Merci d'ailleurs Philippe Détra de vous être levé tôt ce matin et puis d'être venu répondre aux questions des jardinières, des auditeurs, questions jardinage. Cette histoire de jardinage nu m'a troublée. Allez, belle journée Philippe en tout cas.
Merci à vous aussi et bon week-end.
Les jardinières reviennent comme toujours samedi prochain, habillées, je précise, même heure, même fréquence pour un nouveau rendez-vous jardinage. Je serai avec Mylène et Olivier Ribaud pour répondre à vos questions. Et si vous en avez déjà d'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer par SMS au 939 ou nous envoyer un petit formulaire. Elles seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.